franceinter.com. La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
« 1971, Épinay-sur-Seine, la première prise du pouvoir par François Mitterrand. » Un François Mitterrand incisif dans un discours le 13 juin 1971. «
Violente ou pacifique, la révolution, c'est d'abord une rupture. Celui qui n'accepte pas la rupture, la méthode, ça passe ensuite. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, politique, ça va de soi, c'est secondaire, avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. »
Ainsi parlait le dimanche François Mitterrand, qui, il faut le noter, le vendredi précédent n'était pas adhérent du Parti socialiste, mais qui en devenait le mercredi suivant le premier secrétaire 10 ans avant l'élection présidentielle de mai 1981. Un historien des socialistes de la longue durée, aujourd'hui, Alain Bergougnou, bonjour.
Bonjour.
Historien des anciens et des nouveaux, historien des phraséologies révolutionnaires et de la pratique du pouvoir par les socialistes. On vous doit, avec Gérard Grimbert, un livre qui vient d'être réédité sous une nouvelle forme chez Hachette Littérature, qui s'intitule « Les socialistes et le pouvoir ». Alors, puisque, avec vous, on est dans le temps long, est-ce qu'on peut commencer par raconter ce qu'était le Parti socialiste, héritier de la vieille SFIO, 2 ans avant Épinay, en 1969?
Deux ans avant Épinay, le Parti socialiste et ses filiaux étaient épuisés par les crises de la 4e République, la crise de 1962, les difficultés internes. Et surtout, le Parti socialiste, la SFIO, était réduite à un ensemble d'élus, de municipalités, n'avait à peu près que 75 000 ou 80 000 adhérents au maximum. Et encore fallait-il vérifier véritablement. Et donc, mais en réalité, depuis les années 62-63, quand s'est vraiment mise en place la 5e République avec l'élection du président de la République au suffrage universel, la gauche éclatée de 58-62, la gauche non communiste, de manière caractéristique, comme on disait à l'époque, cherchait à se regrouper. Et donc en 1969, c'est un moment tournant parce que c'est l'échec d'une stratégie politique qui était celle de Gaston Defferre, qui entraîne hélas l'échec de Pierre Mendès France aussi, qui lui était associé dans l'aventure de la candidature présidentielle.
Élection présidentielle de 69.
Parce que c'est l'échec d'une stratégie de réunifier la gauche non communiste autour du centre-gauche et avec des liens avec une partie du centre et l'ancienne démocratie chrétienne. Donc à partir de 69, il n'y a plus qu'une voie possible, il n'y a plus qu'une alternative, c'est essayer de réunifier la gauche non communiste autour d'une perspective d'union de la gauche avec le Parti communiste. Et évidemment, c'est là que sonne l'heure de François Mitterrand, parce que le premier acte d'Épinay, faut-il le rappeler, les choses sont longues, c'est 1965, c'est quand François Mitterrand a imposé à la SFIO, au Parti communiste, consentant une candidature unique du nom de la gauche contre le général de Gaulle, et que son étonnant résultat du premier tour lui a permis d'acquérir une légitimité qu'il va utiliser à plein dans les années 69-71.
Le secrétaire général perpétuel de la SFIO, Guy Mollet, n'aimait pas trop d'ailleurs que les socialistes se présentent à l'élection présidentielle. C'est pour ça qu'il avait délégué la candidature à un homme de l'extérieur, François Mitterrand, parce que le Parti socialiste intégrait difficilement le système institutionnel né de la réforme du général de Gaulle. Vous avez dit que le recrutement était assez médiocre et vieillissant. Le Parti socialiste n'a pas une implantation sur tout le territoire.
Non, le Parti socialiste est essentiellement un parti qui est implanté dans les vieilles terres de tradition un peu du mouvement ouvrier, et surtout les terres de tradition laïque. Il est faible à l'ouest, à l'est, dans une partie du Massif central, et il a été concurrencé victorieusement dans les régions industrielles par le Parti communiste, notamment dans toutes les banlieues des grandes villes industrielles. Et il tient surtout par quelques grandes fédérations, grâce à ses réseaux d'élus, et c'est-à-dire le Nord-Pas-de-Calais, les Bouches-du-Rhône, qui à L3 représentent 30% des adhérents. Mais n'oublions pas que dans ces années 60, il y a des forces de renouvellement dans les clubs, au PSU, donc il y a des nouveaux militants qui cherchent une issue politique, et la SFIO est à la fois faible, mais en même temps, elle est la principale composante de ce qu'est à l'époque la gauche non communiste.
Les jeunes leaders comme Chevènement ou Pierre Mauroy pressent d'ailleurs Guy Mollet de se renouveler avec l'appui de ces forces nouvelles, ce qu'on appelle au Parti communiste les ingénieurs, techniciens, cadres.
La création du nouveau parti présente deux caractéristiques en dehors des problèmes politiques. Le premier, c'est le phénomène club qui s'était développé à l'extérieur du parti, mais qui sera réintégré à l'intérieur si nous savons animer avec souplesse et avec audace les statuts que vous avez acceptés hier. Le deuxième caractère, c'est une greffe, bien sûr, difficile à opérer, représentant une couche sociale nouvelle qui était dans les clubs, les hommes en général du tertiaire, et d'une tranche d'âge insuffisamment représentée jusqu'ici, des gens de 30 à 45 ans. C'est cette greffe qui est faite sur un vieux parti ayant gardé une structure linéaire extrêmement simple.
Oui, oui, le Parti socialiste est malade aujourd'hui, c'est vrai. Il était bien plus malade en 1920. Les copains qui ont connu cette heure-là sont sortis à moins de 30 000.
2 ans avant Épinay, ici les Moulineaux, Guy Mollet, qu'on vient d'entreapercevoir, s'efface en grognant et en disant que son héritage n'est pas si catastrophique. Ce n'est pas Pierre Mauroy qui le précédait dans cet enregistrement qui va lui succéder d'un souffle, c'est Alain Savary qui est élu. Alain Savary, dont son ami Romain Gary dit, c'est un gars très bien, simplement il est frappé d'honnêteté intellectuelle.
Oui, c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il avait été choisi, parce que Alain Savary renouveler l'image des leaders socialistes, parce que résistant, compagnon de la libération, qui avait marqué une intransigeance pendant la guerre d'Algérie, qui avait suivi Daniel Meyer et d'autres dans le Parti socialiste autonome, le PSU, qui ensuite avait rompu avec le PSU pour rentrer dans une stratégie de rassemblement de la gauche, Alain Savary représentait une grande figure morale et donc il incarnait aux yeux de Guy Mollet une capacité d'une nouvelle image du socialisme. Mais le point, vous le soulignez, est important. Ce n'est pas lui qui était prévu au départ. C'était Pierre Mauroy qui, pendant quelques années, a paru être, notamment au début de l'année 69, a paru être le successeur de Guy Mollet, homme du Nord, de la tradition, d'un grand. Donc, mais c'est les dissentiments, les méfiances réciproques ont fait que Guy Mollet, finalement, a préféré soutenir Alain Savary parce qu'il pensait que Pierre Mauroy avait peut-être trop de complaisance vis-à-vis de François Mitterrand.
Alors dites-moi, le problème d'Alain Savary, c'est la tutelle de Guy Mollet ou bien c'est la présence à l'extérieur de l'autorité et du charisme de l'ancien candidat à la présidentielle de 65.
Disons que c'est les deux. C'est-à-dire qu'Alain Savary n'est pas une marionnette, comme on dit ses adversaires. Il a sa propre volonté d'incarner un renouvellement moral, éthique, politique du socialisme. Mais la grande figure à l'extérieur de François Mitterrand, dont il faut rappeler que la légitimité de 1965, notamment, fait que François Mitterrand, même à l'extérieur, est incontournable. Évidemment, affaiblit Alain Savary, qui va se trouver devant la nécessité, à la fois voulue et contrainte, de rechercher l'unité avec les forces extérieures et notamment avec la Convention des institutions républicaines.
La Convention des institutions républicaines, c'est un petit groupe d'amis. On se souvient bien sûr des noms de Hernu, Jox, Gisèle Halimi, Louis Mermaz, tant d'autres. Convention des institutions républicaines qui s'offrent apparemment à la fusion.
L'unification des forces socialistes, c'est possible. C'est possible en 1970, à la condition que personne n'impose un diktat.
Vous avez dit que l'ensemble de la gauche socialiste devait se trouver en face du Parti communiste pour discuter.
Je dois dire que je suis extrêmement réticent, même que je déplore la possibilité de négociation à la queue leu-leu. Chaque groupe de la gauche socialiste qui va ainsi négocier avec le Parti communiste. C'est une mauvaise méthode. Moi, personnellement, si je reste tout à fait partisan, j'ai toujours été, et personne de ceux qui nous écoutent ne s'en étonnera, de l'entente de la gauche tout entière, notamment avec le Parti communiste, c'est dans le cadre d'une négociation plénière, que je le vois. La Convention est prête à disparaître dans la réunification générale des forces socialistes.
Voilà, on a été prosaïque jusqu'ici, Alain Bergougnoud, dans la description des manœuvres de préparation du congrès d'unification d'Épinay, avant d'être tactique dans leur description. Un petit moment de lyrisme.
Socialiste, chanson poétique et révolutionnaire.
Elle était socialiste, protestante et féministe, un peu chiante et un peu triste, institutrice. Moi j'étais rien du toutiste, anarcho-mitterrandiste, je sais même pas si ça existe,
mais ça m'excite.
Puis elle m'a dit qu'elle avait des relations, qu'elle était pote avec un pote à tonton, qu'elle avait dîné il y a un mois chez Jacques Lang, que Guy Bedos avait repris quatre fois de la viande. Elle était socialiste, se méfiait des écologistes, détestait les communistes.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec aujourd'hui comme sujet le congrès d'Épinay de 1971. Cette chanson de Renaud est évidemment bien plus tardive, mais on y voit des constantes de l'histoire socialiste que connaît bien notre invité Alain Bergougnoud. C'est toujours assez labyrinthique, les courants au Parti socialiste, et déjà en juin 1971.
Demain va s'ouvrir à Épinay-sur-Seine le congrès de l'unité socialiste. Pendant trois jours, les amis d'Alain Savary, de Guy Mollet, de Gaston Defferre et Pierre Mauroy, ceux de François Mitterrand aussi, de Robert Buron, sur les perspectives du nouveau parti socialiste. Comment intégrer une personnalité aussi forte que celle de François Mitterrand dans un parti qui a de solides structures et de vieilles habitudes de vie en commun ?
À Épinay-sur-Seine, François Mitterrand et son organisation, la Convention des institutions républicaines, vont entrer dans le parti socialiste, c'est sûr. Mais c'est pratiquement là que s'arrêtent les certitudes. Les amis de François Mitterrand vont arriver à ce congrès avec des propositions entre les mains. Écoutez ce que m'en a dit Claude Estier, le secrétaire général de la Convention.
La Convention voudrait faire passer dans le nouveau Parti socialiste le plus possible d'elle-même.
Voilà, donc pour bien comprendre ce congrès d'Épinay, il faut savoir qu'il a été précédé par de longues négociations et de longues tractations. Et ce qu'on peut appeler évidemment des conciliabules, voire même pour certains des complots. En fait, il y avait deux questions fondamentales. La question idéologique n'était pas tellement en cause, parce que dans cet après 68, à part quelques fractions, tout le monde était à gauche, tout le monde critiquait le capitalisme et tout le monde voulait un rassemblement de la gauche. Mais le problème, c'était comment. Donc la première difficulté est une difficulté stratégique. Il y avait ceux qui, avec Alain Savary, Guy Mollet, qui voulaient un accord avec le Parti communiste, mais qui pensaient qu'il fallait d'abord réduire les différences idéologiques, donc qui plaidaient pour un dialogue idéologique, pour que le contrat de gouvernement fût établi sur des bases fermes. Et puis il y avait d'autres qui, avec François Mitterrand, la fraction du CRS, pensaient que de toute manière, c'était impossible de réduire en quelques mois les différences idéologiques et qu'il fallait sauter le pas et préparer un programme de gouvernement et que, en quelque sorte, le mouvement se prouverait en marchant. Alors ça, c'est la première. Il y avait de vraies questions stratégiques qui étaient posées derrière les alliances de troisième force. Et puis, il y avait l'autre problème, comme dans tout congrès socialiste, il y a les idées, il y a les stratégies, et puis il y a les hommes. Aujourd'hui, on dirait les femmes, mais à l'époque, c'était essentiellement les hommes. C'était de savoir qui dirigerait ce nouveau parti. Et donc, le deuxième thème, c'était la rénovation. Et là, dans le fond, pour bien comprendre, se sont nouées deux coalitions qui vont animer ce congrès de manière masquée, dans les premières heures et puis de plus en plus ouverte au fur et à mesure. C'est-à-dire que la première coalition, qui était celle autour de François Mitterrand, réunissait les opposants historiques à Guy Mollet, Gaston Defferre, qui incarnait la droite de la SFIO, mais aussi nouvel opposant Pierre Mauroy, séduit par François Mitterrand, déçu par Guy Mollet, et la gauche du parti qu'incarnait à l'époque la jeune fraction du CRS. Et tous unis autour de l'idée qu'il fallait, pour vraiment rénover, changer de direction. Et l'autre grande coalition était autour de Alain Savary, évidemment les amis de Guy Mollet, mais aussi Jean Popraine, qui était aussi pour une union de la gauche, mais une union de la gauche qui aurait mis en avant d'abord le dialogue idéologique, la réduction des différences avec le PC, et qui voulait maintenir une tradition. Et c'est là que se sont jouées les choses. Et
le samedi 12 juin, grand discours, oui, avec la phraséologie révolutionnaire qu'on ne va pas répéter, de François Mitterrand, qui l'emporte déjà. Puis François-Olivier Gisbert dit ensuite, c'est grain par grain que l'épi de maïs Savary va être dépouillé. Un hôtel à Montmorency dans la nuit du samedi 12 au samedi 13, des tractations nocturnes, et le lendemain, le dimanche, cet affrontement entre le premier secrétaire sortant et son challenger.
Camarades, nous ne jouons pas la politique du pire. Camarades, si à l'issue de cette soirée, il y a des dupes, eh bien, pour une fois, nous pourrons dire que nous n'en serons pas. Camarades, dans cette affaire, nous n'avons pas joué. Nous n'avons pas joué avec le parti. Nous n'avons pas joué avec le problème de l'union de la gauche. Nous n'avons pas joué avec le socialisme.
Alain Savary est dupe, hein. Frappé d'honnêteté intellectuelle et alors complètement incapable de machiavélisme ou de magie.
Le refusant, parce que, pour encore une fois, pour démêler ces méandres tactiques, mais qui reposaient, comme j'ai essayé de le dire auparavant, sur de vraies oppositions, il faut comprendre qu'il y avait une coalition improbable. L'intelligence tactique de Mitterrand, ça a été d'unir ce qui était la droite de la SFIO, ou ce qui paraissait comme tel, et la gauche. Ce qui a surpris, évidemment, la coalition du centre qui représentait la direction sortante, qui ne pouvait pas s'imaginer qu'un Gaston Defferre, partisan des alliances centristes, soit d'accord avec un Jean-Pierre Chevènement sur une perspective de programme commun avec le Parti communiste immédiatement. Et la force de Mitterrand, ça a été de nouer cette coalition, une coalition des mécontents qui voulaient tous la rénovation, mais pas forcément la même rénovation. Et François Mitterrand avait assez confiance en lui-même pour penser qu'il serait celui qui ferait la synthèse de tout cela après.
D'autant qu'il avait écrit les textes de la main gauche et d'autres textes de la main droite. Quand même, tout n'était pas joué le dimanche à la Bergogneau.
Tout n'était pas joué.
Notamment parce que...
Tout n'était pas joué, et notamment, et on retrouve votre question sur Alain Savary, parce qu'il y a un point qui aujourd'hui est méconnu. François Mitterrand ne désirait pas forcément être le premier secrétaire. Il aurait aimé être sans doute dans la situation de Léon Blum dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire le chef reconnu, le chef parlementaire, le candidat, bien sûr, à l'élection présidentielle, et qu'il y ait un secrétaire général de bon aloi qui mène les affaires administratives qui l'embêtaient un peu. Mais cette proposition a été faite à Alain Savary dans le Congrès. C'est-à-dire, une fois les rapports de force reconnus et la coalition Mitterrand ayant la majorité au nouveau comité directeur, François Mitterrand aurait accepté une fusion et qu'Alain Savary accepte sa défaite et quitte à être le secrétaire général. Mais Alain Savary a refusé, et c'est le sens du mot dupe que vous entendez et que vous avez entendu tout à l'heure.
Le dimanche, l'élection au comité directeur de la veille a déjà donné l'avantage aux adversaires d'Alain Savary, mais en ce qui concerne les mandats des délégués, il faut noter que la Fédération du Nord, qu'anime Pierre Mauroy, aurait pu être amputée des votes des sections de la ville de Lille, du vieux maire Augustin Laurent. Confession, après coup, France Culture 2009, de Pierre Mauroy, qui raconte le dialogue qu'il a eu à Épinay avec Augustin Laurent.
Il m'a regardé, il m'a dit, mais vous êtes certainement en train de préparer ça depuis des mois et des mois, et peut-être même quelques années. Je lui ai dit oui. Dans ce cas, c'est tout. Moi, j'ai fait mon choix. C'est toi qui es mon successeur à Lille. C'est toi qui es mon successeur à la tête de la Fédération du Nord, tu prends tes responsabilités. Et moi, je dois faire mon discours pour enterrer un ami qui est le directeur de l'Institut Pasteur. Donc, je rentre à Lille immédiatement. Le voilà parti à Lille. Et Guy Mollet, où est Augustin Laurent ? Où est Augustin Laurent ? Où est Augustin Laurent ? Il voulait à tout prix le retrouver pour finalement rattraper l'affaire, quoi. Parce qu'il savait bien que si tous les votes du Nord allaient dans le sens de notre motion, Mitterrand, mon roi de fer, ben, c'est nous qui l'emportions. C'est ce qui s'est passé. Augustin Laurent était sur l'autoroute, rentrait vers Lille et nous laissait la victoire.
Ce qu'oublie de dire Pierre Mauroy, c'est qu'il a accompagné quand même Augustin oui. Laurent jusqu'à la voiture.
Augustin Laurent a été raccompagné avec déférence et fermeté à sa voiture. Mais ça montre parfaitement qu'un congrès n'est jamais totalement joué. Et là, qu'il y avait des possibilités tactiques parce que le score final a été relativement serré. Et que malgré de longues préparations, comme le dit Pierre Mauroy, plusieurs années, en tout cas plusieurs mois, Mitterrand aurait pu ne pas remporter le congrès d'Épinay et qu'il a fallu quand même beaucoup d'entre-gens, beaucoup de volonté et beaucoup d'habileté tactique dans ces trois jours
oui,
même.
Oui, ça montre quand même, comme le dit François-Olivier Gisbert toujours, que sous le voile des effets de tribune, c'est un grouillement de règlement de compte et de coups fourrés sans aucun débat politique.
Et là, c'est faux. Et c'est là qu'on retrouve les faiblesses, parfois, d'un certain journalisme, qui ne voit que les petites choses. Il y a les petites choses. Et l'anecdote d'Augustin Laurent le montre. Mais il y avait une vraie question stratégique qui était posée dans ce congrès, au-delà des ambitions des uns et des autres. Et donc, c'est un congrès socialiste, celui d'Épinay, comme d'autres dans l'histoire, ça joue toujours sur deux scènes. La scène des ambitions et puis la scène aussi des volontés, des différences politiques. Et là, la question d'Épinay était majeure au point de vue de différences stratégiques. Parce que si Savary l'avait emporté, il n'y aurait pas eu du tout le même type d'union de la gauche.
Convenait quand même qu'un certain nombre de journalistes étaient interloqués. Mais quand ils observaient la scène principale, avec les chiffres, voilà ce qu'il pouvait enregistrer. Nous sommes le dimanche après-midi, 13 juin. Le suspense règne encore.
Enfermés dans les vestiaires du gymnase, les représentants des différentes tendances discutent pied à pied les textes des cinq motions qui restent en présence. Toutes cinq affirment que les communistes sont les alliés naturels des socialistes, que c'est donc avec eux qu'il faut s'entendre, mais qu'il faut le faire sans complexe, et même en position de force.
Savary, 41 757. Mitterrand, 43 926.
Bon, un journaliste demanderait à Alain Bergogneau, l'historien, tiens, ils chantent encore l'Internationale, ils osent. Non, mais vous allez répondre en historien. Ce qui est important dans Épinay, c'est les ruptures oui. Qu'a permis le Congrès.
Tout à fait, parce que le congrès, c'était pas évident sur le moment pour les observateurs ni pour les acteurs, peut-être à part quelques-uns, mêle du vieux et du neuf. C'est à la fois une réunification socialiste dans la tradition, d'où l'Internationale qui a été chantée tout au long des années 70 dans les congrès socialistes. C'est un congrès qui amène un renouvellement militant et qui draine dans le pays des espoirs, notamment dans les jeunes générations associatives, syndicales, qui vont rejoindre le Parti socialiste. C'est un congrès qui se veut idéologiquement à gauche, dans la tradition socialiste. Mitterrand a emporté le congrès sur sa gauche, voire le discours. Mais en même temps, c'est un congrès qui apporte du neuf, parce que, notamment, cette question stratégique était majeure, dans la mesure où Mitterrand renonçait au préalable idéologique avec le Parti communiste. Ça veut dire qu'il donnait le pas au pragmatisme politique.
Donc la négociation avec le PC, dites-vous, c'est maintenant sur une base froide.
Oui, ça va être une union froide et non pas l'idée d'effacer Tours, de revenir à un état antérieur. François Mitterrand avait une vision extrêmement pragmatique des rapports de force politique.
Et grainé, grain à grain les pies de maïs communistes.
On peut prendre cette formule, mais qui ne va pas jusqu'au bout, parce que François Mitterrand n'aurait pas voulu aller jusqu'au bout de l'égrenage, parce qu'il pensait que le Parti communiste représentait une force trop forte pour permettre à la victoire de la gauche, parce que si le Parti communiste restait dominant, il n'y aurait jamais eu de victoire à l'élection présidentielle, il en était persuadé, mais il ne voulait pas que le rapport de force arrive à une déstabilisation totale. Et puis l'autre point important...
Vous dites élection présidentielle, c'est ça la deuxième
rupture.
Mais bien
sûr, l'autre point important, c'est que François Mitterrand le dit dans son discours, et ça évidemment a retenu moins l'intention, il dit à un moment, je cite de mémoire, mais ce n'est pas tout à fait exact, il dit que le but c'est de prendre le pouvoir, et ajoute-t-il en plaisantant, je commence mal. Mais pour moi, il n'y a pas de vocation sectaire. C'est-à-dire que le but, c'est le pouvoir. Et donc, François Mitterrand fait accepter à Épinay, ce qui était déjà en gestation depuis 1965, en réalité, c'est-à-dire que le Parti socialiste, qui était critique vis-à-vis des institutions de la Ve République, va jouer le jeu de la présidentialisation et pour pouvoir gagner la gauche. Et en même temps, ça a une troisième conséquence. C'est-à-dire que, contrairement à ce que pensaient Guy Mollet ou Alain Savary, ou Jean Popren, le parti n'est plus la finalité première, le parti devient un instrument pour le pouvoir. C'est-à-dire que François Mitterrand, par cette victoire, fait advenir un autre état de la gauche, et c'est pour cela que ce congrès n'est pas secondaire, et qu'il ne faut pas voir que les aspects tactiques, amusants d'ailleurs, de certains points de vue, rétrospectivement, mais qu'il y avait derrière des enjeux historiques importants pour l'histoire de la gauche française.
Mais l'historien dira... Alors que le journaliste est tenté d'expliquer que c'est grave de creuser ainsi le vide idéologique, de ne pas être assez concerné par les questions de doctrine, l'historien, comme vous, dira ben, « c'est formidable, le parti, c'est plus une fin ».
Et c'est une évolution, mais en même temps, la force est ce qui explique les années 70 pour beaucoup, et ce qui s'est passé en 1974 et même jusqu'en 1981, c'est que François Mitterrand a uni, si j'ose dire, le vieux et le neuf, c'est-à-dire que ce parti a eu une grande production idéologique pendant toutes les années 70. Il y a eu le programme Changer la vie, le programme commun, il y a eu des propositions tous azimuts, c'est-à-dire l'idée que le parti ne soit pas une fin n'a pas amené une fin des idéologies, au contraire. Les années 70, pour les socialistes, sont des années de grandes convictions et de grandes productions idéologiques.
Ça, c'est l'historien socialiste que vous êtes aussi.
Non, je crois
Alain
que c'est l'historien
Bergoglio
normal.
Qui parle, le PS s'étend d'ailleurs géographiquement et socialement. Oui. C'est à ce moment-là que vous fondez, en 1971, en septembre, la section avec trois membres de l'école normale supérieure. Et puisque vous parlez de production idéologique, il y a aussi... la production graphique, Le Point et la Rose, ça date de cette époque. Mmh. Et la production, j'allais dire, lyrique, je ne sais pas si François Mitterrand était tellement tenté par l'international. En tout cas, c'est lui qui a commandé cette œuvre immortelle qui montre comment s'étend la puissance du Parti socialiste dans les années 1970.
Ne versons plus au nom de la puissance, notre sueur, nos larmes, notre sang. Les travailleurs travaillent pour la France, pas au profit de quelques possédants. Pour partager les fruits de l'abondance, changeons la vie ici et maintenant.
Merci à vous, Alain Bergoglio. Si vous désannoncez, j'indique vos dernières productions.
C'était l'hymne qui avait été commandé à Théodorakis pour le congrès de Nantes en 1977, très caractéristique des années 70 et des espoirs de cette période.
Vos dernières productions, la nouvelle édition avec Gérard Grimbert du Pouvoir et du Remords, aux éditions Hachette Littérature, et l'excellente collection Idées reçues, Le Cavalier Bleu, Idées reçues sur les socialistes. Kamal Salifou, Jean-Philippe Jeanne, Frédéric Martin, Franck Olivard, Clarisse Legardien, Camille Poux-Jalaguier.